Vous écoutez Radio Auraviv, la radio plus près de vous, et c'est le moment de retrouver l'émission Le Temps de l'Histoire, présentée par Gérard Levin, en collaboration avec Radio Auraviv Toulouse.
Bonjour, voici votre émission Le Temps de l'Histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage dont beaucoup de personnes connaissent le nom, mais connaissent mal sa vie. Je vais vous parler de Nostradamus. Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus, est né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence et mort le 2 juillet 1566 à Salon de Provence. C'est un apothicaire et auteur français. Pratiquant l'astrologie, il est surtout connu pour ses prédictions sur la marche du monde. Selon certaines sources, il aurait également été médecin, bien que son expulsion de la faculté de médecine de Montpellier témoigne qu'il n'était pas possible d'exercer les deux professions à la fois. Michel de Notre-Dame, fils de Jaume de Notre-Dame et de René de Saint-Rémy, est né le 14 décembre 1503. Le nom de Notre-Dame vient de son grand-père juif, Guy de Gassonnet, fils d'Arnouton de Vélorge, qui choisit le nom de Pierre de Notre-Dame lors de sa conversion au catholicisme, probablement vers 1455. Selon les archives d'Avignon et les archives de Carpentras, il est suggéré que l'origine du nom Notre-Dame fut imposée par le cardinal évêque d'Arles. Le grand-père de Notre-Dame, Pierre de Notre-Dame, était si convaincu de sa foi qu'il a répudié sa femme, alors Bénastruge Gassonnet, qui ne voulait pas quitter le judaïsme. Notre-Dame part très jeune en Avignon pour y obtenir son diplôme de bachelier en S.A.R. à l'université d'Avignon. Il loge alors chez sa tante Marguerite, mariée à un teinturier, où il s'occupe de préparation, et ses préparations sont quand même assez proches de l'alchimie. On le dit doué d'une mémoire presque divine, d'un caractère enjoué, plaisant, peut-être un peu moqueur. Ses camarades l'auraient appelé le jeune astrologue, parce qu'il leur signalait et leur expliquait les phénomènes célestes, mystérieux alors pour beaucoup. Ainsi, les étoiles filantes, les météores, les astres, les brouillards, etc. Il doit apprendre aussi la grammaire, la rhétorique et la philosophie. Mais il doit quitter l'université après un an seulement, et donc sans diplôme, à cause de l'arrivée de la peste, ceci vers 1520. Ayant pratiqué l'apothicaire, il s'inscrit à la faculté de Montpellier pour essayer d'y gagner son doctorat en médecine. Il se fait connaître grâce aux remèdes qu'il a mis au point en tant qu'apothicaire. Mais il est bientôt expulsé pour avoir exercé ce métier manuel interdit par les statuts de la faculté. Son inscription de 1529 et sa radiation sont les seules traces de son passage à Montpellier. Et on ne connaît pas de document attestant qu'il ait été docteur dans une autre université. Et sans être affirmatif, la plupart des érudits du XXe siècle pensent qu'il n'est pas impossible que l'expulsion de Nostradamus ait été temporaire, qu'il se soit réinscrit dès octobre 1529 et qu'il soit devenu quand même diplômé de l'université de Montpellier en 1533. Année où il s'établit à Agen et où il pratique la médecine de soins à domicile. La durée précise de son séjour à Agen est inconnue, peut-être 3 ans, peut-être 5. Les points de repère manquent et l'on ne peut offrir que des dates approximatives. Vers 1534, Notre-Dame y choisit une femme avec qui il aurait eu 2 enfants. L'épouse et les 2 enfants meurent très rapidement, à l'occasion de quelques épidémies, la peste vraisemblablement. Après la mort de sa première femme, Notre-Dame se serait remis à voyager. Les commentateurs tardifs se le représentent en compagnie de savants renommés de l'époque. Notre-Dame accomplit de 1540 à 1545 un tour de France qui l'amène à rencontrer de nombreuses sommités et personnalités dans le monde savant et de médecins. Ici se termine le cycle de pérégrination de Notre-Dame qui l'a mené en somme après être rayé de Montpellier, du sud-ouest au nord-est de la France. Notre-Dame atteint la quarantaine, et là commence une seconde phase de déplacement qui va le rapprocher de la Provence et le pousser vers l'Italie, terre bénie de tous ceux qui connurent à son époque l'ivresse de la Renaissance. En 1544, Notre-Dame aurait eu l'occasion d'étudier la peste à Marseille. Puis il est appelé à ceux d'Aix pour venir dans leur ville traiter les maladies de la contagion dont il est affligé. C'était en l'année 1546. On le voit à Lyon en 1547, à Vienne, à Valence, à Marseille, à Aix-en-Provence, et enfin à Arles, où il finit par s'établir. Là, il met au point un médicament à base de plantes capable, selon lui, de prévenir la peste. En 546, il expérimente alors à Aix, où il y a une terrible épidémie, et son remède semble efficace comme prophylactique. Malgré ce succès douteux, Notre-Dame est appelée sur les lieux où les épidémies sont signalées. À la même époque, il commence à publier des almanachs qui mêlent des prévisions météorologiques, des conseils médicaux et des recettes de beauté par les plantes. Il étudie également les astres. Il épouse en seconde noces une jeune veuve de Salon de Provence. C'est en 1549 qu'il rencontre à Milan un spécialiste en alchimie végétale qui lui fait découvrir les vertus des confitures qui guérissent. Oui, confitures. Donc bravo les gourmands. En 1550, il rédige son premier almanach populaire. Dès cette date, Michel de Notre-Dame signe ses écrits du nom de Nostradamus. Ce nom n'est pas l'exacte transcription latine de Notre-Dame, qui serait plutôt Domina Nostra. En latin correct, Nostradamus pourrait signifier « nous donnons les choses qui sont nôtres » ou « nous donnons les panacées ». Mais il était également permis d'y voir un travestissement macaronique et très heureux de Notre-Dame. Macaronique, ça veut dire que c'est un langage inventé. En 1555, installé à Salon de Provence, il publie ses prédictions perpétuelles dans un ouvrage de plus grande envergure et presque sans date ciblée. Ce sont les prophéties, l'ouvrage qui fait l'essentiel de sa gloire. Toujours en 1555, Nostradamus rédige un ouvrage marquant sur la confiserie. Puis Nostradamus poursuit au cours des années suivantes ses activités médicales. Chers amis, je vous propose quelques instants musicaux. Merci.
Voilà, nous retrouvons Le Temps de l'Histoire, notre émission qui nous est proposée et qui est animée par Gérard Levin.
Nous reprenons le fil de notre histoire, de ce cher Nostradamus. Ainsi, sa renommée est telle que la reine Catherine de Médicis l'appelle à la cour en 1555. Le motif de l'intérêt de la reine était peut-être que dans son dernier almanach, Nostradamus avait mis le roi en garde contre les dangers qu'il disait ne pas indiquer par écrit. En cette même année de 1555, donc, Nostradamus, inquiet des intentions de la cour et craint d'avoir la tête coupée, se rend à Paris, où il reçoit du couple royal des gratifications, qu'en public il qualifie d'ample, mais dont il se plaint en privé qu'elle ne couvre pas ses frais de voyage. Les nouvelles alarmantes de l'intérêt que la justice parisienne porte à la source de sa préscience l'incitent à quitter Paris précipitamment. Il est persuadé qu'on veut sa mort. Dans les années qui suivent, il est la cible de plusieurs pamphlets. Des attaques fusent de partout, de France, d'Angleterre, des milieux protestants et catholiques, des laïcs et des clercs, des poètes et des prosateurs, des adversaires de l'astrologie et des astrologues de métier, des étrangers mais aussi de ses proches. Nostradamus rentra pleinement en grâce auprès de la famille royale en 1564, à l'occasion du grand tour de France de Charles IX, roi de France, accompagné de Catherine de Médicis, sa mère, et de Henri de Navarre, le futur Henri IV, qui lui rendit visite. À cette occasion, la reine le nomma médecin et conseiller du roi. Certains pensent qu'il souffrait d'épilepsie. D'autres, c'est seulement par image que Nostradamus désignait alors un état de transe qui l'accompagnait, ce qu'il croyait être une révélation prophétique. En revanche, il est vraisemblable qu'il fut atteint de la goutte et d'insuffisance cardiaque. On le retrouva mort le 2 juillet 1566 au retour d'un voyage où il avait représenté sa fille auprès du roi. On connaît son testament et le devenir exact de sa dépouille. Son tombeau fut édifié dans l'église des Cordeliers, puis profané en 1793 par les sans-culottes, ses ossements étant pillés et dispersés. Un Marseillais, d'après la tradition locale, se serait emparé du crâne et aurait bu dedans. Finalement, le maire fit transférer les reliques qu'il avait pu sauver dans la collégiale Saint-Laurent à Salon-de-Provence. La première édition des prophéties est date du 4 mai 1555. Mais ce genre d'édition a intéressé beaucoup de gens. Et plusieurs éditions sont considérées comme piratées ou antidatées. Et par exemple, on admet en général que l'édition qui porte la date de septembre 1557 fut réellement publiée du vivant de Nostradamus. Le livre est partagé en centuries. Une centurie étant, théoriquement, un ensemble de 104. La première édition contenant 353 quatrains prophétiques. Les prophéties ont donné lieu ainsi à la publication au cours des âges de près de 10 000 ouvrages. Donc de nombreuses personnes se sont intéressées à ces prophéties. Une première cause de divergence entre interprètes est qu'en raison des méthodes de composition des imprimeurs du XVIe siècle, les éditions et même les exemplaires particuliers de ces éditions diffèrent tous presque et ne garantissent aucune conformité parfaite avec le texte manuscrit original. Pour ajouter à la difficulté, certains quatrains font l'objet de désaccords entre les exégètes, notamment quant au sens des mots. La seconde cause de divergence entre les interprètes tient à Nostradamus lui-même. Son style obscur et son vocabulaire, mélange de moyen français, de latin, de grec et de provençal, donne aux exégètes une grande liberté d'interprétation. Nostradamus, peut-être pour ajouter du mystère à ses quatrains, a employé toutes sortes de figures littéraires. Mais la raison principale, semble-t-il, de ce style nébuleux serait le désir d'assurer la pérennité de son œuvre. En attendant, tout événement datant a posteriori avec l'une des multiples interprétations possibles d'un quatrain est présenté comme l'interprétation juste. Mais plusieurs interprétations, une même prophétie, cohabitent parfois chez le même exégète. Un bon nombre des interprètes qui croient à la préscience de Nostradamus semblent persuadés qu'il a surtout parlé de leur époque. Enfin, ces mêmes personnes réinterprètent les prophéties après les faits, par un processus appelé clairvoyance rétroactive, et sont victimes d'une erreur de jugement cognitif, le biais rétroactif. Nostradamus avait des méthodes divinatoires, et Nostradamus affirmait volontiers avoir appliqué toute une série de procédés divinatoires parmi lesquels la fureur poétique, ou le subtil esprit du feu de l'oracle de Delphes, l'eau de l'oracle de Didyme, l'astrologie judiciaire, l'art de juger l'avenir d'après le mouvement des planètes, mais Nostradamus se disait astrophile plutôt qu'astrologue. Et ça continue, les sacrées écritures ou les sacrées lettres. Bien qu'il n'ait probablement pas possédé une Bible, telle quelle, interdite à l'époque aux laïcs. Mais ça continue. C'était aussi la calculation astronomique ou la supputation des âges, selon le prétendu cycle datant d'Ibn Ezra, qui est un célèbre astrologue arabe du bas Moyen-Âge. Et de bien avant, Nostradamus prétend arrêter ses prédictions à l'an 3797. Et ça continue par le songe prophétique ou l'incubation rituelle. Il est cependant douteux qu'ils aient vraiment utilisé ces procédés, car ils semblent se contredire là-dessus. Il est plus probable que sa méthode principale était la projection dans le futur de prophéties préexistantes et de récits historiques. Nous arrivons à son quatrain le plus célèbre. Le plus célèbre des quatrains réputés prophétiques de Nostradamus est le 35e de la première centurie. Je vous le lis quand même si c'est en vieux français. Le lion jeune et le vieux surmontera, en champ bélique, par singulier duel. Mais en cage d'or, les yeux lui crèvera. Deux plaies une, puis mourir, mort cruelle. Selon les adeptes d'une lecture prophétique, ce quatrain annoncerait la mort d'Henri II. En juin 1559, le roi Henri II affronta le comte de Montgomery lors d'un tournoi de chevalerie. Ils auraient porté tous les deux un lion comme un signe. Henri II reçut la lance de son adversaire dans son casque, qui selon certains était en or, et aurait eu l'œil transpercé. Il mourut 10 jours plus tard. La blessure était, paraît-il, horrible, non seulement l'œil, mais le bout de la lance aurait pénétré dans le cerveau. Et cet homme est mort, paraît-il, dans d'atroces souffrances. Ce quatrain, le plus célèbre des centuries, fit les délices des amateurs d'occultisme qui veulent y voir l'annonce du tournoi qui opposa Henri II et le sire Gabriel de Large, comte de Montgomery, le 1er juillet 1559. On sait qu'Henri II, blessé à l'œil par son adversaire, mourut de sa blessure le 1er juillet suivant. Les sceptiques s'émerveillent de la coïncidence. Les adeptes y voient la preuve de ce qu'ils ont toujours su, à savoir que Nostradamus avait un don de clairvoyance. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. En effet, dans l'épître à Henri II, qui précède les trois dernières centuries de ses prophéties, Nostradamus semble dire que ses dons de voyant lui révélaient parfois non l'avenir, mais le passé. C'est curieux, mais c'est ce qu'il a affirmé. Et l'existence du quatrain du passé a reçu plusieurs confirmations qui datent des dernières années du XXe siècle. On a ainsi découvert qu'il avait fait de larges emprunts à des astrologues bien connus, ainsi qu'à des auteurs antiques comme Tite-Vive. Et après, il y a ces prophéties qui sont arrivées jusqu'à nous. Donc, on lui a prêté qu'il avait prédit le massacre de la Saint-Barthélemy. Et beaucoup plus près de nous, juste après les attentats du 11 septembre, un texte suivant a beaucoup circulé sur Internet. Et où le cite. Dans la cité de Dieu, il y aura un grand tonnerre. Deux frères seront séparés par le chaos. Pendant que la forteresse endure, le grand meneur succombera. La troisième grande guerre commencera quand la cité brûlera. Ce texte n'est pas de Nostradamus, ce n'est pas un quatrain non plus. Il fut écrit en 1997, des attentats datent de 2001, et publié sur une page web par un étudiant canadien qui voulait montrer qu'on pouvait fabriquer à la manière de Nostradamus des prophéties assez ambiguës pour supporter de nombreuses interprétations. Ainsi, chers amis, les prédictions de Nostradamus sont discutées, peut-être discutables, parce que un quatrain sur un nombre incalculable, ça fait peu de choses. Est-ce que c'est la coïncidence? Est-ce que c'est vrai? Ce cher Nostradamus, 500 ans après, fait toujours parler de lui. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir de vous retrouver.
Radio du web non-stop.